soir, les pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23 sont dans l'impasse. Et pour cause, les deux parties ne se sont pas accordées sur la signature d'un cessez-le-feu exigé par le M23. Quelle analyse faire de cette situation et comment sortir de cette impasse? Pour en parler, nous recevons M. le gouverneur Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. M. le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir, M. le journaliste.
Honorable Juvenal Munubo Mubi, député national de l'opposition et cadre du parti politique UNC, il est élu de Walika et au Nord Kivu. Honorable Munubo, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous les auditeurs.
Professeur Philippe Yoya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités. Professeur Biyoya, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes jeudi 20 décembre 2012. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Pour parler de Kampala, entre le gouvernement congolais et le M23, la réunion d'hier matin suspendue aussitôt commencée et qui devait reprendre le soir ne l'a pas été. Et pour cause, les deux parties ne se sont pas accordées sur la signature d'un cessez-le-feu exigé par le M23. Le facilitateur ougandais s'employait à consulter séparément les deux parties pour une issue favorable. Mais visiblement, la tâche ne lui a pas été facile. Comme d'habitude, il n'y a eu aucun communiqué sanctionnant la fin de la réunion. C'est ce que nous dit de Kampala notre envoyé spécial Innocent Olinga.
Le M23 qui réclame la signature de ce cessez-le-feu justifie sa demande par la volonté de la population du Nord Kivu de vivre dans la paix. Nous sommes ici pour la paix et nous devons commencer par signer un cessez-le-feu, nous a déclaré Bertrand Bissimois, porte-parole de ces mouvements rebelles. Mais la délégation gouvernementale voit un piège dans la démarche du M23. Un des membres de cette délégation s'explique.
Cessez-le-feu, qu'est-ce que ça veut dire? Leur accorder l'espace qu'ils occupent anarchiquement aujourd'hui? Espace tampon? Leur accorder l'administration? Ça, ce sont des techniques intelligentes d'occupation de terrain. Nous ne sommes pas prêts, nous qui sommes venus à la délégation, cautionner une démarche qui tend à la partition, à la balkanisation. On ne peut pas signer cessez-le-feu avec une force négative.
Est-ce un blocage qui s'annonce? Difficile de le dire maintenant, même si les dessins commencent à prendre forme. Mais quant aux facilitateurs, les ministres ougandais de la Défense, visiblement, ils ne se fatiguent pas. Il a prévu une autre rencontre ce jeudi, c'est après des consultations séparées avec les deux parties. Kampala, Innocent Olinga, Radio Kapi.
Merci Innocent Olinga. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Comment vous analysez cette impasse?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par saluer M. Juvenal, qui est mon frère du Nord Kivu, mais également le professeur Philippe Bioya, que je connais très bien. Je pense que j'ai deux ou trois éléments d'analyse. Le premier élément, c'est que, à mon sens, le gouvernement voudrait garder une certaine constance dans ses décisions et surtout respecter les décisions des 11 chefs d'État. Parce que comme vous le savez, depuis que la crise a commencé, il y a eu 5 sommets. Donc un sommet à Addis Abeba et 4 sommets à Kampala. Dans le premier sommet d'Addis Abeba, il avait été pris deux grandes décisions. La première, c'était de demander aux structures de la CIRGL de travailler avec l'Union africaine et les Nations unies pour établir immédiatement une force neutre en vue d'éradiquer, je crois, les M23, les FDLR et toutes les forces négatives. Et la deuxième décision dans cette réunion d'Addis Abeba disait que toutes les forces négatives, y compris les M23, devaient cesser immédiatement leurs activités. Alors je considère que le gouvernement se trouve en difficulté de devoir signer un cessez-le-feu alors qu'il doit respecter ses décisions de chef d'État. Le deuxième argument, c'est que il y a seulement 2 jours, le gouvernement a signé un règlement intérieur. Et dans ce règlement, il est stipulé au préambule que le dialogue de Kampala se tient sur la base et dans le cadre de décisions prises par les chefs d'État et du gouvernement de la CIRGL, notamment ce que je viens d'évoquer ici. Alors comment va-t-il signer un cessez-le-feu avec un mouvement qui est déjà identifié par ce même chef d'État comme une force négative à éradiquer? Le troisième argument que je peux donner, je le trouve dans la définition même d'un cessez-le-feu. Moi, les enseignants qui m'ont appris ce cessez-le-feu, ils ont dit que c'est en fait un arrêt ou une suspension des hostilités entre ceux qui se font la guerre. Mais mes enseignants m'avaient dit que ce cessez-le-feu ne peut se réaliser que si les représentants ou les signataires ont une autorité sur les belligérants. Alors la question qu'on doit se poser est de savoir, est-ce que ceux qui sont à Kampala ont une autorité sur les militaires qui se trouvent sur la ligne de front? Parce que vous savez, lorsque les M23 s'est retiré par exemple de Goma, il y avait une confusion entre l'autorité politique et l'autorité militaire. Monsieur Runiga, qui est le président du M23, disait qu'il ne quittera jamais la ville de Goma, alors que Makenga, lui, avait reçu un ordre de quelque part de faire mouvoir ses troupes. Alors, si les gens de Kampala signent ce cessez-le-feu, qui va exécuter cette décision? Surtout qu'on sait que pour l'opinion nationale et internationale, au sein du M23, il y a deux ailes. Il y a l'aile Makenga, qui est proche de Laurent Kunda, et l'aile Bosco Ntaganda, d'ailleurs, qui vient de nommer notre général en la personne de Baudouin Ngarouye par opposition à Makenga. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a un cessez-le-feu qui est signé, on va se poser la question de savoir, est-ce que c'est l'aile Makenga qui est proche de Kunda qui va l'exécuter, ou c'est l'aile Bosco Ntaganda? Parce que selon mes analyses, effectivement, l'aile de Makenga serait en train de vouloir qu'il y ait un dialogue. Alors, l'aile de Bosco Ntaganda, lui, étant donné qu'il est recherché par la CPI, il voit à travers un dialogue la fin d'une crise et donc la paix. Et si la paix arrive, lui pourrait éventuellement être arrêté. Donc, à mon sens, je crois que ce sont ces quelques éléments-là. Un quatrième élément qui me vient en tête, c'est qu'effectivement, s'il y a cessé le feu, c'est comme si on empêche la venue de la force internationale neutre. Parce qu'elle n'aurait plus de sens si le gouvernement considère le M23 comme un partenaire. Or, moi, j'ai suivi les discours du chef de l'État avec le premier ministre qui ont dit que le gouvernement a déjà débloqué les moyens pour la venue de cette force. Or, vous savez très bien que si la force arrive, elle ne vient pas seulement éradiquer les M23, elle vient également éradiquer les FDLR. L'empêcher de venir en signant ce cessez-le-feu, c'est continuer à donner un argument et au M23 et au Rwanda en laissant d'autres forces négatives comme les FDLR piller dans la région. Monsieur... Voilà les quelques éléments que je peux ramasser comme analyse par rapport à ce qui pourrait motiver éventuellement le gouvernement d'avoir des réserves par rapport à la signature de ce cessez-le-feu.
Alors, monsieur le gouverneur, quand vous évoquez ces différentes tendances qui naissent au sein du M23, cela ne compliquerait-il pas une fois de plus ces négociations? On a l'impression qu'il se poserait également un problème d'interlocuteur.
C'est effectivement ça ce que j'ai évoqué dans le troisième argument. Quand j'ai dit que normalement, lorsqu'il y a un cessez-le-feu, on doit connaître si les signataires ont une autorité sur les belligérants. C'est un réel problème. On peut signer à Kampala et un matin, un autre groupe lève la tête et dit qu'il n'est pas concerné par le cessez-le-feu de Kampala. À ce moment-là, le gouvernement sortirait ridicule par rapport à ce qu'il serait en train de faire à Kampala. Je crois que c'est cela qui est en train de motiver effectivement le gouvernement à dire non. Le cessez-le-feu n'a pas été l'origine de la guerre. Et le M23 est en train de fonder ses arguments sur l'accessoire pour dire qu'il exige un cessez-le-feu, comme si avant la guerre, le gouvernement avait d'abord commencé par violer un cessez-le-feu avant pour dire désormais commençons par la signature de ce cessez-le-feu pour qu'on continue. Donc je considère que c'est un piège qu'on est en train d'étendre effectivement au gouvernement. Le cessez-le-feu est un accessoire, on doit passer immédiatement à l'essentiel et je crois que je vais aborder dans la deuxième partie les pistes de solutions pour qu'on puisse surmonter cette impasse.
Alors avant que je ne donne la parole à l'honorable Juvenal Mounoubo, monsieur le gouverneur, brièvement, est-ce que vous partagez la position du gouvernement quand il dit que le cessez-le-feu consacrerait à la balkanisation du pays?
D'abord, le cessez-le-feu serait en train effectivement de donner au M23 un territoire qu'il va acquérir de façon presque confirmée. Donc on va lui donner naturellement le territoire de Rutshuru, le territoire de Nyiramo pour dire vous restez là-bas jusqu'à ce que nous arrivions à terminer la crise. Je crois que ça consacre effectivement cet aspect-là. Vous avez suivi le M23 en train de dire qu'il réclamerait même la gestion administrative de la ville de Goma et donc les chefs de la province. Donc, ils veulent prendre une partie qui lui donne effectivement une autorité morale sur un espace territorial donné et qui puisse fonder dans l'avenir des arguments selon lesquels, non, nous sommes là, nous y restons. Merci. Parce que tout simplement, nous considérons que c'est notre espace à nous. Donc je crois que je partage ce point de vue par rapport à ce que le gouvernement a bien voulu développer.
Merci Monsieur le Gouverneur. Maître Juvenal Mounoubo-Moubi, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique UNC. Vous êtes élu de Walikale au Nord Kivu. Vous avez suivi les différentes analyses du gouverneur Julien Paluku. Quelle est votre réaction à vous?
D'entrée de jeu, je m'en vais saluer Monsieur le gouverneur Julien Paluku. Je salue également le professeur Philippe Bioya avec qui nous sommes dans ce débat. Je voudrais condamner encore une fois la guerre à l'est du Congo. Telle est d'ailleurs la position ferme de mon parti politique, l'UNC. Nous condamnons de la manière la plus ferme, dans des termes les plus forts, ce qui se passe à l'est. Pourquoi ? Parce que des victimes sont nombreuses, des populations victimes, des civils, des mamans, des enfants, etc. Alors, je voudrais souligner ici que la situation est volatile, très volatile, et que les affrontements peuvent reprendre à tout moment. C'est ceux qui sont à Goma qui nous donnent l'information. Nous avons des familles à Goma. Et il y a plusieurs informations qui circulent en ce moment dans la ville de Goma. Des informations qui font état de l'encerclement de la ville, des informations qui font état des infiltrations, des informations qui font état du fait que la ville est en train d'être vidée progressivement de ses habitants. Parce qu'il y a ceux-là qui estiment qu'ils ne se sentent pas en sécurité et qui doivent partir soit à Bukavu ou d'autres même traversent, ils vont au Rwanda. Et d'autres arrivent à Kinshasa. Donc on est dans cette situation et l'effort à faire ici, c'est d'éviter de retomber dans une nouvelle guerre, enfin dans des nouveaux affrontements, parce que la guerre, elle est là, elle ne s'est pas arrêtée. Et ça serait une grande humiliation, encore une fois, face à nos forces armées, les forces loyalistes. Raison pour laquelle, dans les techniques de négociation, ça ne sera pas la toute première fois, et je pense que ce n'est pas un aveu de faiblesse. Il aurait fallu, et ça c'est la position que je vous présente, la position de mon parti politique, ça aurait été mieux et sage que le gouvernement accepte qu'un cessez-le-feu soit signé, de façon à permettre d'aller vite avec le processus. Pourquoi ? Parce que le M23 risque d'opposer ça comme préalable. D'ailleurs, il a commencé à le faire. Et ça risque d'être finalement un handicap par rapport au processus de paix. Ce que nous ne voulons pas parce que nos populations en ont mal. Et surtout que les gens souhaitent voir finalement la paix le plus vite possible. Nous sommes à la fin de l'année. Et le souci, c'est que nos frères et sœurs qui vivent à l'Est, nos compatriotes, passent les festivités dans des bons climats. Donc rien ne rassure ici que la paix s'est pérennisée. Aussi, on ne voit pas de l'autre côté une préparation sérieuse dans les rangs des FRDC. Pourquoi ? Parce que si on ne réussit pas avec la solution militaire, eh bien, il y a d'autres gammes de solutions. Et le gouvernement, ici, a choisi la voie des négociations. Qu'il ait accepté des négociations, qu'on ait signé le règlement intérieur en date du 18 décembre 2012, je crois que le gouvernement devrait continuer dans cette voie et non faire de recul par rapport à ça.
Alors, honorable, vous avez suivi le gouverneur Julien Paluku tout à l'heure. Déjà, en parlant du M23, des différentes tendances qui se dégagent, il se poserait un problème d'interlocuteur entre le M23 sur terrain et le M23 à Kampala. Qui exécuterait cesser le feu, a dit le gouverneur, et il a confirmé la position du gouvernement selon laquelle consacrer un cessez-le-feu serait égal à consacrer la balkanisation du pays. Et donc, pour vous, il faut accepter le cessez-le-feu à n'importe quel prix.
Je crois que c'est un processus qui se déroule pas dans l'opacité, je pense. Il y a des observateurs à Kampala, il y a plusieurs délégations. Il y a l'Union européenne qui est à Kampala, il y a les Nations unies qui sont représentées à Kampala. La MONUSCO n'est pas loin par rapport à ce qui se passe. Elle observe ce qui se passe. Je crois que, étant donné que ça ne se passe pas dans l'obscurité ou l'opacité, il n'y a pas à craindre ici. C'est vrai que dans des mouvements comme le M23, ça a été le cas anciennement avec les RCD et tout ça. Des scissions, il y en a. Il y en a toujours. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des mouvements, dans la plupart des cas, ce ne sont pas des mouvements bien structurés. Et nous savons bien, les vrais maîtres de ces mouvements ne résident pas à Bunagana ou à Rutshuru. Les vrais maîtres, c'est au Rwanda et en Ouganda, parce que le Rwanda et l'Ouganda ont été épinglés dans les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Donc là n'est pas le débat. Le débat, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut durcir les temps. Est-ce que nous avons des moyens suffisants pour une solution B? au cas où l'impasse s'est pérennisée à Kampala. Et la solution, c'est la solution militaire. Est-ce que le gouvernement peut nous dire qu'il est en passe de contre-attaquer, de récupérer toutes les positions? C'est vrai que le M23 devrait se retirer jusqu'à 20 km comme prévu. Et là aussi, nous sommes pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé, parce que l'M23 n'est pas loin. Selon plusieurs observateurs, il se trouverait à 3 à 4 kilomètres de là. Mais je crois qu'à l'allure où vont les choses, seul le cessez-le-feu peut donner un peu plus d'assurance. Et, parce que si on ne signe pas le cessez-le-feu, eh bien, ils peuvent tenter encore une fois de montrer qu'ils sont capables de reprendre le contrôle de la ville. Et cette deuxième humiliation, ça risque de porter un coup fatal à nos forces armées.
Alors, je reprends deux autres aspects de l'analyse du gouverneur Julien Paluku. Le cessez-le-feu pourrait empêcher la venue de la force neutre. Le gouverneur a également dit que le gouvernement souhaiterait garder sa constance dans ses décisions et par rapport même au règlement intérieur qui a été signé. C'est pourquoi il refuse le cessez-le-feu, honorable Munubo.
Monsieur le gouverneur rappelle ici que le M23 est traité de force négative selon la décision des chefs d'État à Addis Abeba. Mais le gouvernement, notre gouvernement, s'inscrit finalement dans une logique contradictoire, parce que voyons l'autre processus, c'est toujours en rapport avec mais d'autres démarches, l'autre approche, l'approche SADC. Avec l'approche SADC, où on décide de pousser, d'appuyer sur l'accélérateur pour que la force internationale se déploie, eh bien la force vient avec l'idée de s'attaquer et au M23 et au FDLR et aux groupes locaux. Vous voyez que la logique de Kampala, c'est une logique militaire, tandis que la logique de la SADC, c'est une logique militaire, tandis que la logique de Kampala, c'est une logique politique. Alors, si le gouvernement appuie la logique de la SADC, qui est une logique militaire, de par mes analyses, ça veut dire que il faudra effectivement s'attaquer au M23. Mais lorsque le gouvernement accepte de négocier directement avec le M23, cela veut dire, il est sous-entendu que le gouvernement ne considère plus le M23 comme force négative, mais que finalement comme une partie au pourparlers.
Professeur Philippe Iyoya, vous êtes politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités. Il faut accepter le cessez-le-feu pour aller vite avec le processus, dit l'honorable Munubo. Il faut pas accepter le cessez-le-feu qui risquerait de consacrer la balkanisation du pays. Professeur, quelle est votre analyse par rapport à l'impasse vécue à Kampala?
Bon, je voudrais d'abord saluer le gouverneur et l'honorable, pour leur dire mes amitiés et ma sympathie pour tout ce qui se passe à l'est de la République. Je voudrais que nous soyons sereins dans cette affaire et que nous cherchions à comprendre réellement où on nous mène, où on voudrait nous mener. Parce que le principe d'un cessez-le-feu, à moins que nous soyons nous ignorants, n'est invocable que lorsque, en fait, on est en situation de belligérance. Ce n'est pas des semaines après avoir exécuté même des recommandations, comme le gouvernement a dit, d'une conférence qui serait en fait favorable aux gens du M23, que l'on vient demander en pleine séance de négociations politiques qu'on demande un cessez-le-feu. Ça, l'accepter, même parce que nous sommes faibles, ça serait indiscret et c'est vraiment cautionner le mal. C'est impensable. Et moi, je ne voudrais pas m'épiloguer, c'est ça. Parce que je voudrais savoir quel est le rôle que joue l'Ouganda dans la médiation. Parce que c'est l'Ouganda qui reçoit, qui fait dire, et me semble-t-il, c'est l'Ouganda qui, en fait, créer des conditions de blocage, parce que l'Ouganda ne voudrait pas, comme l'a dit l'honorable Museveni, est en fait gêné de ce qu'il existe une solution B avec la SADC. Et vous auriez remarqué que même lorsqu'il avait été invité en Tanzanie au sommet de la SADC, il s'en est pris à la MONUSCO. Or, il n'était pas invité là-bas pour aller faire des commentaires. Il n'était pas membre de la SADC. On l'a invité parce qu'on voulait savoir où est-ce qu'il en était avec le pilotage d'un processus dont il avait convoqué les gens de négociation. Alors, il joue toujours la diversion. Alors, l'attention, nous devons savoir qu'avec le M23, il est guidé par Museveni et par le Rwanda, même un cessez-le-feu ne nous dispense pas d'une surprise, des attaques. Parce que moi, j'ai déjà négocié avec les Ougandais et avec le Rwandais à Addis Abeba en septembre 1998 autour de l'accord qui est devenu l'accord de Lusaka. Et ils ne négocient pas. Et quand ils acceptent pour parler sur le terrain, il faut la guerre. Ils sont maintenant embêtés. que les M23 aient été repoussés de Goma et que les M23 ne soient pas en mouvement, parce que dans la logique, dans les traditions, ils ne voient pas comment, en fait, ils vont mettre la pression. Parce qu'ils ne croient pas à la négociation politique. Donc, il ne faut pas commettre d'erreur. Parce que je pense que le gouverneur a parfaitement raison dans tout ce qu'il a analysé. Le problème de Museveni, c'est qu'à partir du moment où la SADC a indiqué clairement ce qu'il veut faire, Museveni n'est plus dans ce schéma. Et regardez, c'est la même logique que je l'écris dans mes ouvrages, c'est la logique qui a présidé à la guerre du Rwanda et de l'Ouganda à Kisangani à trois reprises. Tout le monde a pensé qu'il s'est disputé des sites. Non, leur tactique c'était quoi? Ils n'aiment pas qu'on impose dans la question congolaise une solution qui ne soit ni ougandaise ni rwandaise. Or, quelle est la solution de l'Ouganda aujourd'hui? Quelle est M23 qui les a dédouanés, qui ne présente plus comme agresseurs et qui fait l'objet des attaques aux Nations Unies, doit être reconnu. Alors, je voudrais prendre peut-être cette perspective-là. Mais je pense que le gouvernement, en acceptant d'écouter l'M23, il va dans le sens. Parce qu'en ce moment-là, le cessez-le-feu peut être déclaré unilatéralement. Il n'est pas interdit au M23, pour montrer sa bonne volonté de construire politiquement, de dire qu'il arrête des hostilités et qu'en ce moment, le M23 se trouverait délié de ses engagements si jamais le gouvernement passait à l'offensive. Or, on ne nous apporte pas la preuve qu'il y a combat sur le terrain. Alors, le cessez-le-feu, on le demande à partir de quoi? Et je veux bien l'honorable qui s'apitoie sur peut-être nos forces armées. Mais je crois qu'à partir du moment où nos forces armées avaient même quitté le front, quitté Goma et qu'on sort, il n'y avait plus de conditions de cessez le feu parce que nous n'étions pas dans un face-à-face. Alors les cessez le feu, on l'invoque pourquoi? C'est-à-dire que, tu vois, ils sont en train de vouloir, en fait, construire une diversion, une distraction. Malheureusement, ils s'y prennent très mal.
Professeur.
Je crois que c'est ce que je veux dire à ce niveau.
Alors, professeur, vous dites que le principe de cesser le feu s'applique souvent en situation de belligérance et vous évoquez le rôle assez complexe de l'Ouganda. À part ça, professeur, y aurait-il d'autres données sur terrain qui ferait que le M23 puisse camper sur sa position en exigence?
Le M23, c'est ça. Le M23 a la nette conscience que la négociation qu'il demande n'aura pas lieu. Ils avaient commencé d'abord par le fameux protocole qu'ils ont signé, que vous appelez règlement intérieur. Alors, à partir du moment où on a voulu, en fait, circonscrire la portée et la limite, l'étendue des négociations, je crois qu'ils ne trouvent plus leur compte. Alors là, ce sont des manœuvres de diverses domaines dilatoires qui, pour faire, en fait, quoi, pour se dégager, cherchent comment se dégager de l'acceptation des négociations avec le gouvernement. Parce que, et ils étaient venus à Kampala, convaincus que Kampala allait tout faire pour que le gouvernement, qui était dans la faiblesse, accepte tout. Alors maintenant qu'ils voient que le gouvernement, finalement, se dit, puisque les chefs d'État ont reconnu tous qu'il s'agit d'une force négative et que c'est pas, en fait, un sujet de droit international et que si on peut peut-être les écouter, c'est à cause des engagements que le gouvernement avait pris. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement se trouve devant un interlocuteur qui l'oblige. Alors, mais je crois que s'ils veulent changer de l'attitude, mais qu'ils le disent ouvertement. Parce qu'en fait, c'est ça. Ils font, c'est une manœuvre dilatoire, en fait, qui était un refus du dialogue, qui était un refus, en fait, de pourparler. Et ils nous indiquent clairement que pour eux, l'avenir, dans la guerre et il faudrait que le gouvernement les sache et que l'on s'il faut qu'on perde encore une fois, moi c'est pas le nombre de fois qu'on aura perdu,
professeur.
Mais l'essentiel c'est que nous-mêmes nous ne soyons pas complices des desseins malveillants et cyniques d'un pays ou de groupes de gens qui officiellement travaillent contre le pays. Mais comment est-ce qu'on peut accepter ces principes-là comme l'honorable le dit, avec un mouvement qui se réclame congolais et qui n'a aucun égard pour la Constitution, et qui ne discute pas d'abord le Congo, et il va discuter, en fait, les intérêts du groupe jusqu'à quand.
Professeur.
Et si tous les autres groupes ethniques au Congo se mettent à prendre des armes pour que chacun demande sa proportion, et qu'est-ce qu'ils deviendront?
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, j'ai sous les yeux le compte-rendu de l'appel téléphonique du président Obama au président Kagame, compte-rendu du bureau du secrétaire de presse de la Maison Blanche publié le 18 décembre dernier. Je vais juste vous lire un extrait. Le président Obama a souligné au président Kagame l'importance de mettre fin de manière permanente à tout soutien aux groupes armés en RDC, de respecter les récents engagements qu'il a pris à Kampala avec les présidents Kabila et Museveni et de parvenir à un accord politique transparent et crédible qui inclut de mettre fin à l'impunité pour les commandants du M23 et d'autres qui ont commis des violations graves des droits de l'homme. Fin de citation. Monsieur le gouverneur, est-ce que cet appel aurait eu une quelconque influence par rapport pour parler de Kampala?
Oui, moi je pense que il s'agit là effectivement de l'implication de la communauté internationale et particulièrement des États-Unis, parce que vous savez, depuis longtemps, les États-Unis avaient été cités comme appuyant le président rwandais, et même Susan Rice en a payé, je pense, le prix lorsqu'il devait être candidat au poste de secrétaire d'État. Je crois que cela lui a valu tous les coups, et aujourd'hui, elle a renoncé à cette candidature. Donc l'appel là, je crois que c'est une prise de conscience qu'effectivement, la RDC, comme ce pays avec 9 frontières, a besoin de la stabilité, et de la stabilité de la RDC dépendra la stabilité de ses voisins. Ça c'est de un. De deux, je pense que revenant maintenant à l'argumentaire, je salue particulièrement ce qu'elle a dit, que c'est une construction d'une diversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'aujourd'hui, on demande au M23 de reculer de 20 km. Il est dit dans les accords de Kampala du 24 novembre que la partie qui sépare les M23 et les FRDC sera gérée par la MONUSCO. Et donc, il n'y aura pas de possibilité de contact entre les FRDC et les M23 pour qu'ils soient exigés un cessez-le-feu. Ça, c'est un autre argument que je voulais ajouter avant de revenir à ce compte-rendu qui nous vient des États-Unis pour dire, effectivement, nous saluons l'implication de la communauté internationale. D'ailleurs, nos sources à Kampala et à Kigali indiquent que cette déclaration a créé beaucoup d'agitation lorsqu'effectivement Obama lui-même a dit qu'il faudrait que le président ougandais puisse s'impliquer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est à Kampala et les rapports des Nations Unies attestent que ce qui se passe à l'est de la RDC est construit de l'extérieur. Et que donc, s'il y a quelque chose à se convenir, c'est avec la provenance de ce qui se passe à l'intérieur de la République démocratique du Congo. On peut faire un cessez-le-feu avec des apparences que nous avons en face de nous, alors que naturellement, le concepteur de l'idée est encore là. Vous savez que je vais évoquer moi ce que j'appelle la théorie de la peur, qui nous a guidés en tant que parti gouvernemental depuis 2007. En 2007, par la peur, nous avions fait les mixages et les brassages parce que nous avions peur que Kunda prenne Mouchaké, qu'il prenne Sac et qu'il vienne à Goma. En 2008, lorsqu'il était à la porte de Goma au mois d'octobre, par la même théorie de la peur, nous nous sommes précipités à aller à Nairobi pour dialoguer, pour signer les accords, et de là, on est arrivé aux accords du 23 mars. Mais toute cette théorie de la peur que nous avons développée en 2007, 2008 et aujourd'hui, nous devons nous interroger si en ayant peur de la prise de Goma par l'an passé, nous avons réussi à résoudre la crise par le brassage, par le mixage et par l'intégration accélérée. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la même question. Si, en voulant nous courber rapidement par la peur que les M23 ne viennent prendre la ville de Goma, est-ce que nous aurons résolu la crise? Parce que je sais bien qu'il y a un philosophe qui a dit que si on ne se rappelle pas du passé, on est contraint à pouvoir le répéter à tout moment. Nous risquons de répéter à tout moment les mêmes choses par la peur de l'humain, par la peur du rebelle, et emprunter des voies qui finalement ne vont pas ouvrir le développement et la paix durable à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi, j'estime qu'on doit cesser de développer cette théorie de la peur pour nous engager vers des schémas durables.
Voilà, monsieur le gouverneur, je vais vous demander juste une réponse très brève. J'ai sous les yeux une dépêche de l'agence PANA qui parle déjà de l'arrivée des troupes zimbabwéennes en Nord Kivu. Est-ce que vous pouvez le confirmer?
Non, moi je ne peux pas confirmer l'arrivée d'une quelconque troupe qui composerait la force internationale neutre, sinon ce serait connu de tout le monde. Je vois que c'est la réponse que je peux donner à l'instant.
Merci monsieur le gouverneur. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix annonce que l'ONU est prête à envoyer des renforts en RDC. Il le dit en réaction au mouvement des rebelles autour de la ville de Goma. Hervé Latsous l'a fait savoir au sortir d'une réunion du Conseil de sécurité mardi à New York. Il faut dire que depuis le retrait des rebelles M23, le 1er décembre dernier, le chef-lieu du Nord Kivu est dans une situation de ni guerre ni paix. En réalité, la peur règne encore. Retrouvons sur place à New York notre correspondante Maha Fayek.
La peur n'a pas disparu et la MONUSCO se prépare à toute éventualité de retour du M23 encore présent et en mouvement autour de Goma, comme le confirme Hervé Latsous à sa sortie d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
Une situation qui est préoccupante parce qu'elle a été marquée tous ces jours-ci par des mouvements assez erratiques mais préoccupants des éléments du M23 et la MONUSCO dans le même temps. Il est prévu que des renforts sont en mesure d'être acheminés très très vite à Goma si les circonstances l'exigeaient.
Mouvement préoccupant et erratique des éléments des M23, d'où le renforcement des patrouilles de la MONUSCO, surtout autour des camps de déplacés, avec pour objectif premier de protéger les populations.
La MONUSCO continue à protéger les camps de réfugiés tout en enquêtant sur les différents rapports qui ont circulé sur d'horribles exactions. On sait maintenant qu'un total de 126 femmes ont été violées à l'est de Goma. Donc tout cela fait l'objet d'une enquête et fera l'objet d'un rapport en janvier.
La MONUSCO continue de suivre de très près les discussions de Kampala. Les négociations avancent timidement, mais les casques bleus, eux, se préparent au pire. Maha Fayek, Radio des Nations Unies, New York.
Merci Maha Fayek. Honorable Juvenal Munubo, l'ONU est prête à envoyer des renforts en RDC. En même temps, vous avez suivi l'analyse du prof Bioya qui parle de l'Ouganda qui constitue un blocage visiblement par rapport à tout ce qui se passe à Kampala. Comment vous conciliez les deux aspects?
Alors, je salue cette décision de l'ONU à travers M. Hervé Latsous d'envoyer des renforts. Je joins mon analyse à l'analyse effectivement d'Hervé Latsous que la situation est volatile au Nord Kivu. Lorsqu'il parle des mouvements préoccupants, erratiques et qu'il attaque même votre collègue de la radio des Nations Unies a dit que la situation est volatile. C'est presque en ce mot qui s'est exprimé dans ce reportage. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et je pense que pour les Nations Unies, au lieu d'envoyer juste des troupes, il aurait bien fallu toucher à un point que je considère comme le plus essentiel, c'est de voir comment retoucher, revisiter le mandat de la MONUSCO pour que la MONUSCO soit davantage capable effectivement d'assurer la sécurité des civils. Parce que ce qui est arrivé à Goma, eh bien, en tout cas, l'opinion congolaise n'accepterait pas que ça se réédite, que la ville de Goma, alors qu'on considérait, dans plusieurs déclarations, on entendait cette fameuse ligne rouge, mais la fameuse ligne rouge a été franchie. Et pourtant, il y a une importante mission onusienne à Goma. Donc, au-delà du déploiement des renforts, je crois qu'il faut toucher à la nature du mandat. Il faudrait voir comment donner à la MONUSCO plus de capacités d'intervention que dans le passé. Alors, pour le gouverneur, je vais revenir, si vous permettez.
Très rapidement.
Le gouverneur nous recommande à ne pas manifester la peur. Je crois qu'au-delà de la dimension peur, c'est plus de la responsabilité. La responsabilité politique, c'est lorsqu'on a choisi une option. Il faut aller avec cette option jusqu'au bout. C'est un peu comme le principe electa unawia. Il faut aller jusqu'au bout. On a choisi l'option politique, visiblement, parce que la population congolaise, nos compatriotes, ils auraient bien voulu, ceux qui ne connaissent pas les capacités de notre armée, ils auraient bien voulu qu'on en découdre militairement. En tout cas, ça, si vous demandez aux gens à Walikal et à Massis et à Goma, ils auraient bien voulu que notre armée s'élève et bout dehors ceux qui agressent le Congo. Mais tel n'est pas le cas. Pour nous qui connaissons les faiblesses qu'il y a au sein de nos forces armées, c'est une armée à refaire, en réalité. Eh bien, pour une armée faible comme la nôtre, c'est notre armée, on ne va pas la jeter. Nous devons tous nous impliquer pour que cette armée soit un jour une armée d'excellence. Mais au stade actuel, une armée comme celle-ci ne pourrait pas nous aider. En tout cas, moi, je ne vois pas d'ici demain, après-demain, les FARDC reprendre militairement les contrôles de la ville de Goma. Alors, et je ne souhaiterais pas qu'il y ait de nouveau des morts, des obus qui tombent dans des maisons, parce qu'il y a eu des morts. On ne parle pas assez de ceux qui sont tombés, nos compatriotes, les sang de nos compatriotes a coulé lorsque le M23 a pris la ville de Goma et souhaitait que cela arrive. Sans proposer une solution rassurante, je trouve que ce n'est pas vraiment de la responsabilité.
Et alors, comment sortir de cette impasse? Donc, à vous comprendre, pour vous, c'est le cessez-le-feu reste la seule voie pour sortir de cette impasse?
Je vois, le cessez-le-feu reste une voie, mais le cessez-le-feu, comme c'est dit dans les théories des négociations, ce n'est pas la paix. C'est juste une étape pour permettre aux parties belligérantes d'engager des pourparlers, donc des négociations, et d'aller dans le fond de la question. Donc, je considère comme étant un préalable. Pourquoi ? Parce que si le gouvernement s'obstine à refuser l'accord, le principe de cessez-le-feu, nous risquons d'entrer dans une véritable impasse. L'impasse est déjà là, il faut sortir de l'impasse. Je pense aussi qu'il faudrait qu'on arrive à mettre sur pied un comité préparatoire, inclusif des négociations. Et raison pour laquelle, et cela est souvent mal interprété lorsqu'on dit voilà l'opposition congolaise n'a pas voulu s'associer, il faut bien voir les contextes. Une invitation n'a pas été dûment envoyée à l'opposition congolaise. Et l'opposition congolaise ne pouvait pas y aller juste comme un témoin. Si elle y était invitée, participant comme une composante, eh bien l'opposition congolaise, en tout cas au niveau de l'Union pour la Nation congolaise, nous avons un plan de sortie des crises, ça serait pour nous une opportunité réelle de démontrer des voies et moyens pour sortir de la situation actuelle.
Comment sortir de cette impasse, professeur Biyoya? Deux auditeurs pour vous, Justin Mouzo au Justinho de Kigali au Rwanda, qui dit « À mon avis, je pense que le M23 parviendra à se retirer des négociations, même si ce point n'est pas respecté. En politique, nous avons deux principes des résolutions des conflits, celui des négociations et de la force. Si l'un d'eux ne réussit pas, c'est au gouvernement d'appliquer l'autre, qui est celui de la force. » Jean Gandou, Alain de Bukavu au Sud Kivu, pour moi, les pourparlers de Kampala ne peuvent pas aboutir à la solution, mais c'est le temps pour notre gouvernement et au chef de l'État de renforcer et d'équiper notre armée physiquement, matériellement et moralement pour pouvoir combattre nos agresseurs, professeur Biyoya.
Bon, écoute, je vous dis ceci, hein, que je peux pas comprendre qu'on manque de civisme. Et on manque de patriotisme simplement parce que le pouvoir peut se marchander à n'importe quel prix. Et je crois que s'il faut que Goma tombe, hein, et que Goma devienne l'Alsace-Lorraine de la RDC, mais je crois que nous devons le faire. Parce que c'est ça la dignité, c'est ça la responsabilité. Parce que le vrai problème, ce n'est pas les gens qui vont mourir à Goma parce qu'ils meurent déjà tous les jours. Le vrai problème... Et je voudrais que peut-être le député de l'INC réfléchisse un peu à ça. Pourquoi le Rwanda et l'Ouganda n'ont-ils pas confiance à Kabila et à son gouvernement pour, en fait, demander à Kabila de leur donner ce que les M23 voudraient leur donner? Parce que c'est ça le problème. Parce que je vous dis que la meilleure façon pour Museveni de jouer effectivement dans le sens de la stabilité, c'est d'utiliser en fait son aura sur le M23 et sa relation avec le Rwanda pour en fait dire écartez-vous, vous êtes des Congolais, rentrez, nous restons au niveau de l'État avec des États. Mais à jouer à travers des ethnies, des groupes interposés. Museveni oublie que lorsqu'il a accompagné Laurent Désiré Kabila, il disait que les partis politiques du Congo étaient des partis ethniques. Il a dit ça, qu'il n'y avait pas de démocratie, les partis étaient ethniques. Mais aujourd'hui, là, le Rwanda et l'Ouganda, ils défendent quoi? Ils défendent un parti politique, ils défendent une cause d'intérêt général ou ils défendent une tribu ou une ethnie. Alors, j'ai déjà dit que pour l'Ouganda et pour le Rwanda, c'est que l'autre là a dit qu'ils ont des techniques de négociation, c'est ça. Mais nous voulons, le gouvernement est là, on ne peut pas dire que si le gouvernement s'obstine. Mais comment un député peut penser que le gouvernement est tellement faible? Sinon, nous sommes un pays faible. Mais pourquoi les députés ne démissionnent pas?
Alors, professeur, quelle est la voie de sortie pour vous?
Mais, la voie de sortie, je vous l'ai dit dès le commencement. Si, comme on l'a dit au commencement, c'est la Surgil, la conférence de la région de Grand Lac, qui a demandé qu'en fait on privilégie les dialogues, c'était pas d'abord avant tout entre le gouvernement et les rebelles. C'était parce que tout le monde sait que le M23 agit pour le compte des intérêts et à la fois de l'Ouganda et à la fois du Rwanda. Alors, je pense que maintenant, Museveni et Kagame ne doivent pas s'arrêter en bout de chemin. Commission de douaniers, on les accuse plus d'agression parce qu'ils ont obtenu, avec la puce de Goma, de faire des M23 et un mouvement autonome et qu'aujourd'hui, la marche d'autonomie de M23 diminue. Parce que pourquoi l'M23 a laissé Goma? L'M23 aurait pu rester à Goma et demander de négocier tant qu'il était à Goma. Alors, mais ils ont replié. Et on a dit qu'ils s'arrêtent à 20 km. Mais ça, c'est pour qu'on leur donne une sorte de posture. Mais si eux arrangent les problèmes pour lesquels ils pensent que le Congo doit faire, mais qu'ils les arrangent avec Kabila. Parce qu'on ne peut pas à la fois encourager Kabila à négocier avec des mouvements qui n'ont aucune légitimité, ce qui diminue la légitimité de Kabila, parce que Kabila a été élu démocratiquement, quels que soient les commentaires qu'ils pourront faire. Alors, en détachant Kabila de la légitimité démocratique, on le détache de la majorité de la population congolaise. Merci. Donc on voudrait l'affaiblir. Et tout à la fois, on sait que la M23, il n'a aucune légitimité, sinon là-bas, peut-être dans les territoires qu'il contrôle. Merci. Alors, professeur, à ce moment-là, on va devant quelle situation? Donc, le plus dur, le plus difficile, c'est ce qui vient. Parce que si les gens de l'opposition attendent, grâce à l'Ouganda, entrer dans un gouvernement où ils seront entièrement des clients, des marionnettes de Museveni, c'est que ce pays est vendu complètement. Alors est-ce qu'on doit encore parler de négociation? Autant qu'en fait, que chacun quitte et qu'on rentre et qu'on voit comment l'avenir va arriver. Merci. Peut-être qu'une solution viendra d'ailleurs.
Merci professeur Philippe Biouya. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa et du monde. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. En guise de conclusion déjà, puisqu'il nous reste moins de 5 minutes, monsieur le gouverneur, quelle est la voie de sortie pour vous?
Moi, je pense qu'il y a deux pistes. La première, c'est celle tracée par la conférence internationale de la région de Gara, qui a dit, dans la réunion du 24 novembre, qu'il faut écouter les M23 et trouver des solutions aux doléances légitimes. Je souligne bien aux doléances légitimes. Donc, je considère que les M23, pour ceux qui ne savent pas, M signifie mars, et 23 signifie la date de la signature des accords du 23 mars. Donc, ce mouvement n'existe qu'au regard de la violation, selon lui, des accords du 23 mars. Donc, il faudrait qu'on puisse l'écouter sur ce que lui estime être les violations de cet accord. À ce moment-là, la CIRGL va comprendre si les éléments qui n'ont pas été exécutés peuvent fonder réellement une guerre pour que des gens puissent être livrés à l'errance comme c'est le cas maintenant. Mais concomitamment, la deuxième solution, c'est que la force internationale neutre doit se déployer, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Hervé Ladzou qui dit qu'on doit encore amener d'autres forces. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je considère que les Nations Unies doivent soutenir la force internationale neutre qui est déjà conçue pour que celui-ci ne puisse plus avoir un mandat d'observation ou un mandat de maintien de la paix, mais que cette force, parce qu'elle a un mandat d'imposition de la paix, puisse bénéficier de l'appui des Nations Unies. Sinon, notre force des Nations Unies pour venir observer, pour venir protéger les civils, comme cela est dit dans les textes, eh bien, ça serait des troupes de trop. Donc, je considère que les deux voies-là constituent la solution. Donc, écoutez, le M23 est concomitamment déployé la force internationale neutre qui va constituer une pression pour que ce qui se passe à Kampala ne se transforme pas à un chantage que les uns et les autres veulent faire sur le gouvernement ou sur d'autres partis intéressés.
Monsieur le gouverneur, pour terminer avec vous, dernièrement, vous avez lancé un appel aux populations de la ville de Goma de ne pas céder à la panique, de rester dans la ville. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un mot à cette population qui est en train de vous suivre en Swahili?
Oui, nawaza ya kwamba wakaji wote wa Nord Kivu na hasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wananisikia, ni kuambia wazidi kuelewa ya kwamba kama muda unakuwa mrefu lakini amani itakuja. Watu wasiwe na oga, na wale waasi wasiendelee kutisha watu kwa kusema kesho ama kesho yake watakamata Goma. Goma sio Kongo, Goma sio dunia nzima. Nawaza kitu kikubwa ni ya kwamba rais amesema ya kwamba vijana wote waweze kuingia katika jeshi ili tuweze kujenga jeshi kesho, kila bandia asije kachezea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hiyo wakuwe na matumaini ya kwamba mambo ambayo yanapitikana Kampala itaweza kufikia mwisho na amani itarudi ili kila mmoja afanye kazi ya kwake bila tatizo.
Accenti, monsieur le gouverneur. Honorable Juvenal Munubo Mubi, un mot en guise de conclusion.
Je ne sais pas si vous me permettez de le faire en Swahili aussi.
Très rapidement, je vous en prie.
Nili napenda kusema ya kwamba shurti yetu ama kiini yetu kama vile wanasiasa wa upinzani ni kufanya kweli upinzani ya kisiasa kusudi tubadilishe mambo, tuone namna gani wakati tutafika hata kupuvuare mambo imefika, imekusha badilika. Ni kusema kiini yetu ama nia yetu, mida yetu haiko kugawanya madaraka, haiko kukua mpuvuar, kukua ministre, kukua mui guvernema ya rais Kabila. Hapana, tunafanya upinzani, wanasema mkifaransa opposition constructive, na tunalomba pia mashirika la kiutu na government wafanye yote iwezekano kusudi waweze kupana msaada ya kiutu na ya dharura kwa wakaaji ambao wanapata na shida ya vita.
Accenti, professeur Biyo, ya juste un mot pour terminer.
Non, au moment où vous avez demandé le vote sorti, je crois que comme Obama l'a dit, et puisque le processus qui a conduit au atteint de paix est un processus qui était différent aussi de l'Osaka, processus patronné par les États-Unis, il faut que les chefs d'État, les trois chefs d'État, soient suffisamment responsabilisés.
Merci,
et
professeur.
Et qu'à partir d'eux, qu'ils demandent qu'on mette le temps nécessaire.
Merci, professeur. Merci, professeur Biyoya. C'est par vous que nous terminons cette dernière émission Dialogue entre Congolais de l'année 2012. Meilleurs vœux et bonne année à tous. À l'année prochaine.